Combes. Trilogie de guerre, volume 1. Les yeux clos. Chapitre 1er. Pierre arrive. Monsieur et Madame Lebroux lisaient ensemble une lettre et se regardaient d'un air un peu concerné. La lettre, timbrée de Paris, avait été ouverte par l'autorité militaire, mais ne contenait assurément rien de compromettant pour la défense nationale. Elle avait été écrite par une infirmière à l'insu du principal intéressé, qui était le neveu de Madame Lebroux. Celle-ci avait eu une sœur plus âgée de 10 ans qui avait épousé un Français, tandis que la cadette s'était mariée dans son pays, la Suisse romande, et n'avait jamais cessé de correspondre avec son aînée, devenue mère d'un petit garçon, puis veuve de bonheur. 2 ans avant la guerre, Madame Royat était morte, laissant un fils désolé qui, à ce moment, était au régiment. Son oncle et sa tante l'avaient donc vu d'une manière très fugitive au moment des funérailles, dans la petite ville de province où la veuve s'était fixée. Ce grand jeune soldat, très absorbé par son chagrin, ne s'était pas beaucoup ouvert à des parents qu'il connaissait peu et qui, de plus, étaient de nationalité étrangère. Mais on avait cependant éprouvé une sympathie mutuelle. Dès la déclaration de guerre, monsieur et madame Lebroux, qui étaient des agriculteurs aisés, avaient suivi avec inquiétude la campagne de leurs jeunes parents, lui avaient adressé lettres, mandats et colis, avaient attendu impatiemment et lu en famille les nouvelles que Pierre envoyait. En septembre 1915, ils avaient appris avec une vraie douleur la grave blessure à la tête qui mettait ses jours en danger. Puis le blessé lui-même, dans quelques lignes au crayon, leur avait annoncé le fatal verdict prononcé au 15-20 à Paris par un oculiste qui faisait autorité, hélas. Les deux yeux étaient perdus sans espoir. « À part cela, je vais bien », ajouta Pierre assez héroïquement. Mais la dame de la Croix-Rouge, qui, depuis quelques mois, s'occupait du jeune soldat aveugle dans la maison de rééducation, était d'un avis différent, et comme elle avait appris par ses conversations avec son blessé qu'il avait de la famille dans la Suisse romande, elle envoyait à cette famille une requête urgente et des nouvelles qui n'étaient pas optimistes. « Votre neveu, Pierre Royat, écrivait-elle, souffre atrocement depuis 3 mois de maux de tête consécutifs à sa blessure et qui prennent l'air d'une névrite chronique. Il a beau lutter, le travail devient difficile. L'appétit disparaît, l'anémie s'aggrave. Votre neveu vous ferait peine si vous pouviez le voir. Il ignore que je vous écris. Nos blessés n'aiment pas à se plaindre. Cependant, comme Royat n'a pas de famille en France où aller en permission, je m'adresse à vous dans l'espoir que vous lui procurerez un changement d'air, une cure de votre air de montagne qui vaut son pesant d'or. Royat est réformé, il sera facile de lui procurer ses passeports. Une de nos infirmières, qui doit aller prochainement chez elle en Franche-Comté, l'accompagnerait jusqu'à votre frontière où vous pourriez peut-être venir le recevoir. Cette dame arrange très bien tout ça, mais, dit M. Lebroux en se grattant l'oreille. En plein été, quand on est au milieu des œuvres, supposons, tu irais bien jusqu'à Pontarlier le chercher, toi, Louise. Moi, me débrouiller avec la douane et les passeports, s'écria sa femme. Tu n'y penses pas? Je perdrai la tête. Je répondrai tout de travers. Je me ferai prendre pour une espionne. Pontarlier. Mais tu sais, toutes les histoires qu'on lit dans les journaux sur Pontarlier, on pourrait prier l'infirmière de mettre notre neveu dans le train de Suisse, et alors, toi ou moi, l'un des deux irait aux Verrières seulement, où il y a la douane suisse, pas bien méchante à ce qu'on dit. Ce serait toujours un point d'arrangé. Mais après ça, le pauvre garçon, comment lui faire passer le temps? S'il ne lui fallait que de l'air, on n'en manque pas. On ne manque pas non plus de lait, ni d'œufs, ni de bonne soupe, de pain, de légumes, et la petite chambre à côté de la nôtre irait très bien. Pas d'escalier à monter. On mettrait Popol avec ses 2 frères. Seulement, est-ce qu'on saura s'y prendre avec un pauvre garçon qui n'y voit pas? Il faudrait quelqu'un qui s'occupe de lui continuellement. Oui, c'est le hic, dit Monsieur Lebroux, mais ça me ferait de la peine de refuser. J'aurais mauvaise conscience. « Toi aussi, » dit sa femme, « qu'est-ce que ma pauvre sœur, là-haut, penserait de nous ?»« Ce fut le mot décisif. Le jour même, une invitation cordiale adressée à Pierre Royat partait pour Paris. Trois semaines plus tard, un télégramme vieux de 3 jours prévenait l'oncle d'avoir à rencontrer son neveu aux Verrières suisses le lendemain matin. Grande hâte des derniers préparatifs, adieux et recommandations, comme pour aller dans la zone des armées. Avec quelle anxiété Madame Lebrou, assise sur le siège de la petite voiture qu'elle conduisait elle-même, avec quelle émotion n'attendait-elle pas l'arrivée du train de Paris dans cette petite gare où les deux voyageurs devaient descendre pour épargner à Pierre l'arrêt et le changement de ligne de la gare principale. Une bonne heure de voiture par cette belle fin d'après-midi lui ferait du bien, pensait Madame Lebrou. Et par endroits, la vue est si belle sur le lac et les Alpes. « Ah mon Dieu, j'oubliais » fit-elle en tressaillant. « Pourvu que je n'aille pas oublier tout le temps. » De loin, une grosse fumée, puis un sifflet annonçait le train. Madame Lebrou confia les rênes à son gros joufflu de Popole, qui n'avait que 7 ans, mais qui savait déjà mener boire les vaches et le cheval. Elle descendit. Le cœur lui battait. De l'escalier d'un wagon, 2 hommes descendirent. Un voyageur passait des colis pour aider. Monsieur Lebrou mettait le pied sur le quai, se retournait, mais déjà le jeune homme d'allure militaire, qui avait un béret sur l'oreille et des médailles sur la poitrine, descendait les marches sans aide, se trouvait à côté de son oncle et, l'instant d'après, dans les bras de sa tante, qui n'écoutait plus que sa tendresse et sa compassion. « Mon cher enfant, mon pauvre petit » fit-elle d'une voix entrecoupée. « Comment, vous, ma tante, quelle bonne surprise de vous voir ici !» s'écria Pierre, qui se pencha pour l'embrasser sur les 2 joues. « Mais, fit-elle stupéfaite, tu nous avais dit, on nous avait dit, que tu n'y voyais pas !» Elle se reculait pour regarder cette figure qu'elle n'avait pas oubliée, ce profil net, aquilin, ses joues maigres, ce menton d'un dessin ferme, la moustache bien française et les yeux bruns, un peu voilé sous les paupières qui ne s'ouvraient pas toutes grandes.